Françoise Trossard et la belle équipe en piste pour un numéro spécial. Les papous passent la grègue. Au menu, joli dimanche, publie papoucité pour le Jurassic Park et un pamphlet contre la vie telle que la pub la rêve pour nous, Dominique Muller.
Voilà comme nous devrions vivre, pauvres mortels, de janvier à décembre, de notre premier à notre dernier jour. T'as vu, mamie, la super convention obsèques ? Oh. Oh oui, papy, j'en meurs d'envie.
Ensuite, la dissertation des papous, philosophique et en quatre sujets, pour les candidats Comon et Beignet, sujet miné.
Dans une lettre, Jean-Paul Sartre pose cette question : quelle est ma place dans blablabla, et surtout, est-ce une place blablabla ?
Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr pendant un an, à réécouter 1000 jours à la page des papous. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la première fois. Un certain samedi soir à Bordeaux, au théâtre de l'Athénée, une première pour la bande des papous, ce voyage à Bordeaux et un plaisir d'être accueillis dans cette ville superbe où il a l'air de faire bon vivre. Et nous étions invités par la Société des agrégés, une idée de sa présidente, sa jeune présidente, Blanche Lockmann, agrégée de lettres classiques, soutenue par les agrégés du bureau bordelais, Jean-Michel Léost, lettres classiques également, et les deux Paul, tous deux agrégés de mathématiques. Blanche Lockmann voulait fêter les 100 ans de la Société des agrégés avec les papous de France Culture et on n'était pas peu fiers. Des jeux pour un centenaire, des jeux avec nous qui sommes beaucoup plus jeunes, 30 ans les papous. Et avec moi sur la scène de l'Athénée, Dominique Muller, Lucas Fournier, Patrick Beignet, notre agrégé de lettres modernes. Eva Almassi, Hervé Le Tellier, Patrice Comon, Patrice Delbourg, Patrice Minet. Il y a plus de Patrice au papou dans la tête que d'agrégé. Et Gabriel Godard pour nous accompagner en musique et en chanson. Dans la salle, Madame la députée Michèle Delaunay, un chaleureux mélange d'auditeurs, agrégés ou pas, étudiants ou non, bordelais ou venus d'ailleurs, tous le sourire aux lèvres. Une récréation littéraire à retrouver en 2 dimanches et demi. Nous avons joué à nos jeux papous sur la scène de l'Athénée pendant près de 3 heures. Les papous passent la grègue, première partie. Et pour lancer ce numéro spécial des papous dans la tête, honneur au jour qui nous réunit sur France Culture, à savoir le dimanche, avec un pastiche qu'on appelle un joli dimanche. Et c'est Hervé Le Tellier qui ouvre avec le joli dimanche du petit Nicolas.
C'est dimanche. Et le dimanche, souvent, on va chez papy et chez mémé. Moi, j'aime bien parce qu'on prend la voiture, parce qu'ils habitent en banlieue. Et qu'on chante, sauf là, on chantait pas parce qu'il y avait plein de voitures sur la route et que papa a voulu prendre un autre chemin et qu'on s'est perdu et que le GPS disait « waiting for signal ». Quand on est arrivé, papa nous a déposé devant et il est parti en disant « bon, ben c'est toujours, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de place ». Mémé a ouvert la porte et elle m'a fait un gros bisou parce que j'avais drôlement grandi et elle a dit « maman, eh bien, et ton mari, où est-il ?»« Il est en train de chercher une place », a dit maman. « Enfin, c'est idiot », a dit Mémé. « Il n'avait qu'à se garer devant la porte cochère. C'est la sortie de notre garage. Il n'y a que notre voiture et c'est dimanche. Les contractuels ne mettent jamais de PV. »« Ah bon ?» a dit maman, qui a appelé papa pour lui dire, mais il lui a dit qu'il était déjà garé, mais que bon, d'accord, il allait rechercher la voiture et il arrivait. « Viens faire un bisou, Nicolas », a redit Mémé. « Ton papy arrive, il est allé chercher du pain. » Et puis, elle a commencé à parler avec maman en disant qu'en fait, il joue au tiercé, ah là là, jusqu'à ce que papy revienne et que papa sonne à la porte. « Je vous ai fait du gigot avec des flageolets », a dit mémé. « C'était ça, ou des flageolets avec du gigot », a fait papy, en souriant comme s'il était fatigué. Et papa a souri presque pareil, et maman lui a fait les gros yeux. « Qu'est-ce qu'on lui donne à sa mémé ?» a dit mamie. « Un bisou », a dit papa, et maman a refait les gros yeux. On a bien mangé, même si la viande était un peu trop cuite. Mais moi, j'aimais bien les flageolets blancs, et aussi le gâteau au chocolat que fait mamie. même que j'en ai pris deux fois du gâteau et que mamie m'a encore resservi une fois. Josiane, elle va être malade, a dit papa. C'est dimanche, a dit mamie, ça peut pas lui faire de mal, ce sont que des bons produits. Qui veut de mon excellent café? C'est du lyophilisé. Je sais bien que vous n'aimez pas ça, elle a dit à papa, mais moi, hein, j'aime bien les cafés pas trop forts. Comme c'est la mode maintenant, avec les machines qu'ils font, c'est vraiment trop fort, alors mon gendre, je vous en sers un quand même. Et papa a dit, oui, bien sûr, Josiane, si vous insistez. Mais j'insiste, a dit mémé. Papy a dit que lui, il n'en prendrait pas cette fois. Merci. Et il est parti faire ses mots croisés. Il fait plein de mots croisés, papy. Bon, a dit papa, mais après le café, on ne va pas tarder, sinon on va être dans les encombrements. Quand on est sorti, mamie est sortie sur le pas de la porte et elle m'a dit « un bisou ». Et elle nous a dit « à dans deux semaines, hein, sans faute ». « Oui, maman », a dit « maman », pendant que papa retirait le petit papier bleu et blanc qu'il y avait plié en deux sous le pare-brise. On est rentré, papa ne disait trop rien, sans doute à cause des encombrements, et maman allait dire quelque chose, mais à ce moment-là, j'étais malade et j'ai vomi.
C'est l'heure de la pub, et oui, on y viendra, mais une pub culturelle et décalée, ou Publie Papou Cité. Elle a été écrite par Patrice Caumont, il a concocté des jolis petits rôles pour Dominique Muller, pour Hervé Le Tellier, et c'est Gabriel Godard qui est au chant et au piano. Alors c'est une pub pour un nouveau parc d'attractions, le parc Marguerite Duras.
Vous aimez les cubitus énormes de la galerie du muséum et les humérus gigantesques des dinosaures?
Vous aimerez Jurassic Park.
Vous aimez les monstres sacrés et les sacrés sacrums fossilisés?
Vous allez adorer Jurassic Park et ses brontosaures de légende.
Venez vite observer toute la faune du flore réanimée, nos sauriens empaillés et la star du parc, Marguerite, la Tyrannosaura Regina, fossile géant découvert près de Duras, Lot-et-Garonne.
C'est le plus grand des auteurs. Oui, mais c'est un dinosaure qui fascine ses lecteurs comme un boa constrictor. À la phrase, elle fait un sort. Faut tout déconstruire, dit-elle. Marguerite, ou bouton d'or, ne s'arrose pas au vitel. Telle une menthe cruelle, ses amants, elle les dévore dans de longs rapport textuel. C'est Mishima, ses amours, c'est une vraie tyrannosaure qui régnait tant à son heure qu'on nomme l'époque encore le Jurassique supérieur.
Jurassic Park, plus qu'un musée signifiant, c'est un mausolée du signifié pour ses pétrodactylos, ses ogres des constructeurs qui dévoraient les adverbes comme on broute de l'herbe.
À Jurassic Park, on a reconstitué leur habitat naturel. Des grands prés de Saint-Germain aux marais d'Indochine. Vous n'y verrez pas des fossiles desséchés, mais des monstres plus vrais que nature, tant leur exceptionnel taux d'alcool dans le sang les a laissés dans un état de conservation stupéfiant.
À Jurassic Park, vous passerez des journées entières dans les arbres, jusqu'à 10h30 du soir en été, ou un simple après-midi avec Monsieur Andesmas, notre guide qui vous présentera nos grands sauriens saussuriens, le butorosaure, le pingératops, le Roland Barthérix de la famille des mégalostructurators.
Ou le foucosaure, un diplôme d'Octus Todorov Ipar datant du lacanien primaire. Ou la sarotosaure, ou le ricardoptérix.
Sans oublier le top du tricératops, le bécatéron, rare ankylosaure à plumes.
Vous pourrez effeuiller dans notre muséum shop l'album souvenir de votre visite, Marguerite au parc, et offrir à vos enfants notre mascotte, la Margarita mon amour, peluche archéologique à lunettes qui ravira petits et grands.
Profitez de nos tarifs de printemps. En avril, l'entrée du parc est plutôt moderato quant au billet.
Notre musée des vieux lézards étant basé sur le bénévolat des jeunes thésards, vous pouvez nous retrouver sur le site duras@iguanodon.com.
Vous envoyez directement vos dons à Équinodon, 14 000 Trouville, boîte postale Lolvestein.
Nous en serons ravis.
Et si vous vous demandez qui a le plus beau stylo chez les pétrodactylos, Duras, Duras, Duras. Métaphore et périphrase, elle fait pas dans la dentelle. Il faut tout détruire, dit-elle. Duras, Duras, Duras. Elle écrit à grands coups de masse, au marteau, au marteau. Faut bien que ça passe ou que ça casse. Moderato, moderato. Le style où les mots s'effacent, la musica d'India Song, où l'amant qu'est beau Mekong. Duras, 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 Duras. Parfois un peu à la masse, elle confond Hiroshima, Nevers, Venise, Calcutta. Duras, Duras, Duras. On fait pas du Lévinas quand on adore la Vinas. Bien vite la voix se casse. Duras, Duras. Elle se fout du temps qui passe. C'est sans doute un dinosaure, mais qui pond des mots trésors. Duras, Duras, Duras. Duras, 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 Duras.
Je rappelle que aujourd'hui, les papous passent la grègue. Donc, il y a deux papous parmi nous, Patrick Beignet et Patrice Caumont, qui vont s'essayer à la dissertation philosophique des papous dans la tête. Alors, elle est classique comme dissertation, mais elle a ceci de particulier, que chacun planchera sur un sujet qui repose sur une citation dont ne lui seront donnés que deux mots. À lui d'imaginer la situation en question et ensuite de traiter le sujet qui lui est imposé, ce qui est à la fois plus facile parce que l'imagination va faire son chemin et va les guider, et en même temps c'est très contraignant tout de même. Alors Patrice Caumont, Patrick Beignet, on commence par qui pour les sujets? Nous avons quatre examinateurs. Alors je sais que c'est pas du tout la coutume pour l'agrégation, mais ils auront le choix chacun entre deux sujets, parce que c'est la dissertation des papous dans la tête. Alors, je crois qu'on va commencer, par exemple, par Patrice Caumont. Vous êtes prêt à écouter les sujets qui vous sont proposés. Il faudra vous décider tout de suite.
Oui, madame. Hein?
Alors, un premier sujet qui vous est offert par Eva Almassy.
Le voilà. Platon, dans son célèbre dialogue « Les parapluies d'Athènes », dit « La 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 la, escargot, la 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 la, dialectique, la 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 la. » À la lumière de cette citation devenue proverbiale de l'histoire de l'éthique météorologique des présocratiques jusqu'à Nietzsche et Heidegger et des exemples de votre expérience personnelle, répondez à la question. Peut-on parler de mensonge lorsqu'on a promis un beau soleil et qu'il pleut toute la journée?
C'est un très bon sujet, un peu costaud, mais je suppose, on est au niveau bac, hein. Je suppose que Les parapluies d'Athènes est une œuvre qui est au programme, non, Patrice Comon, vous avez dû la lire. À demi au programme, oui. Quelle réflexion faites-vous sur ce sujet? Intéressant?
Intéressant.
Bon, on voit l'autre tout de suite?
Oui.
Il est proposé par Lucas Fournier. Essayez de mémoriser le précédent tout de même pour choisir.
Oui, donc c'est un sujet de bac, option hôtellerie-restauration, Académie de Bordeaux. Dans sa préface à la nouvelle édition de l'ouvrage de Vladimir Yankelevitch, Le je ne sais quoi et le presque rien, Michel Onfray écarte d'un revers de manche une question ontologique en écrivant nanana 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 apori. Nanana, 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 cheval blanc, nanana, nanana. De votre côté, sous forme d'un dialogue philosophique imaginaire entre Montaigne et Montesquieu, vous tenterez de répondre à une autre question ontologique. L'entrecôte bordelaise se doit-elle être servie à point ou saignante?
Vous avez pris l'option hôtellerie ou...
Non, je prends... En fait, les deux sujets sont exactement le même.
Ah ben, ils n'ont pas travaillé ensemble. Hein. Ils se connaissent,
non, en fait,
évidemment.
C'est exactement le même sujet.
Oui, mais qui ne s'appuie pas sur les mêmes références.
L'escargot étant le symbole de l'aporie. Oui. Alors là, le cheval blanc est très tentant, mais j'ai déjà beaucoup...
Non, beaucoup.
À Bordeaux, il y a plus de tonneaux que de Diogène. Donc,
donc, je vais la météo,
l'escargot.
L'escargot et la météo.
Ah, l'escargot.
Très bien, très bien. Donc, Eva Almassy, confiez votre sujet à Patrice Comon. Vous aurez tout à l'heure une quarantaine de minutes pour écrire votre dissertation, en même temps que Patrick Beignet, qui lui aussi a droit à deux sujets. Vous êtes prêt à les entendre, Patrick?
Oui.
Premier sujet proposé par Dominique Muller.
Alors, Eva a parlé de Socrate, et moi je me fonde sur un philosophe tout aussi important. Donc le sujet est « Dans Qu'est-ce que l'homme ?» Luc Ferry donc, écrit « Cervela, phénoménologie. En rapportant cette affirmation à Hegel, vous définirez la relation entre le dialectique et la dialectique. »
Oh, fastoche.
C'était au programme, je précise.
C'est vraiment niveau bac, ça?
Oh, bon, oui, c'était au programme, je vous le dis. Hein, oui,
bon,
hein.
Bon. C'est un très beau sujet, hein, ça, on peut le dire. On n'aimerait peut-être pas le traiter. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas sûre. Patrick, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous?
J'ai jamais su ce qu'était le cervelas. Ah. Ça va me bloquer.
C'est un handicap, certain. Alors, de toute façon, vous allez découvrir le deuxième sujet qui vous est proposé par Patrice Minet.
Voici mon sujet. Dans une lettre, Jean-Paul Sartre pose cette question. Quelle est ma place dans blablabla? Et surtout, est-ce une place blablabla? Sans négliger d'évoquer rapidement Blaise Pascal, essayez de répondre avec sincérité, en vous aidant de votre histoire personnelle et éventuellement de votre expérience des trajets si vous empruntez régulièrement les transports en commun. Vous imaginerez aussi les réponses éventuelles des membres de votre entourage en choisissant les plus pertinentes, car, pour paraphraser le grand auteur africain Amadou Ampateba, quand le cœur des ânes donne de la voix, il est inutile de braire pour le couvrir.
C'est un sujet intéressant. Oui. Hein? Alors, on peut hésiter entre les deux, évidemment.
Ah oui. Non, on n'hésite pas du tout.
Ah bon?
Je prends celui de Patrice Minet.
Ah, ben très bien. Mais
moi qui
pas...
suis une examinatrice tout à l'heure, je le prends très mal.
Ah oui, mais vous n'aurez pas à le corriger puisqu'il n'a pas choisi votre sujet, ma pauvre Dominique.
Alors que visiblement, Patrice Minet est un examinateur bavard. Et ce sont les meilleurs, évidemment. Il parle et il trouve que le candidat les écoute très bien. Et ça vaut des bonnes
Donc vous pensez qu'il sera indulgent, voilà. C'est ça l'idée.
Alors... Je ne serai pas indulgent, j'aime parler.
Ils vont travailler sous nos yeux pendant que nous, on va papoter, lire des textes, jouer. Ils vont se mettre derrière aux tables de travail. Vous avez des casques pour vous isoler un petit peu du bruit ambiant, mais il n'y aura pas de musique dedans. Et vous devez vous concentrer tout de suite, vous y mettre tout de suite. Est-ce qu'il y a du papier ?
Il y a du papier.
Ah, ben j'ai bien fait choisir la question.
J'ai déjà entendu ça.
Quelqu'un a du papier dans la salle ? Ah ben, il y avait une rame, mais elle était cachée, alors. C'est parti, vous écrivez, nous on joue. Vous aimez râler ? Oui ?
Non, moi j'adore.
Ah ben si, nous on aime bien. Mais parfois on râle sous cap, on n'ose pas s'exprimer. Et pourtant on est irrité, on est agacé. Et il faudrait prendre exemple sur Dominique Muller qui ose écrire quand elle est furieuse.
Et le dire aussi, je suis une atrabilaire.
Et c'est sur quel sujet ?
Eh bien, ce n'est pas vraiment contre la publicité, mais contre ce que j'appelle le radépacrétisme publicitaire. La pub, c'est le rat des pâquerettes, le niveau zéro dans la tête. À ces de minables pensées, ne nous laissons pas enfumer. Non, on vit comme des opérettes, vantant du tout tous les croquettes et l'éclat des produits WC pour nous rat des pâquerettiser. D'accord, les temps sont durs et il n'y a pas de petites économies. Surtout pas chez les riches, experts en lésine pour le peu que j'en connais, mais restons-en aux gens normaux, les vous et moi. La publicité permet de connaître et comparer le prix des choses. Bon, d'accord, mais un point, c'est tout. On s'en tient là, créatif au leitmotiv abusif, on s'arrête là. Stop ! Qu'est-ce que c'est que cette prétention de se mettre à la place des vous et moi qu'on fait profession de gruger ? Qu'est-ce que c'est que cette condescendance qui prétend les montrer au naturel dans leur tranche de vie, subjugués par vos aspirateurs, vos cols à dentiers, vos lessives, en famille, au bureau, en bagnole, en vacances, partout ? Que dis-je les montrer ? Pénétrer dans leur cervelle et concocter les dialogues imbéciles qui sont censés les agiter du matin au soir ? Scène banale, papa, maman et les gosses sont à table. De quoi parlent-ils ces aimables vous et moi ? Ben des produits qu'ils ont sous le nez, voyons de quoi d'autre. Icos, céréales, pain emballé, boissons solubles, beurre allégé si c'est le matin. Barquettes, conserves, pâtes, sauces, desserts, etc. usinés le midi ou le soir. Avec quel enjouement ils conversent de leur cholestérol et de leur transit, d'oméga 3 et de fibres. Entendons-nous bien, je n'attends pas de cette famille qu'elle participe au banquet de Platon et papote morale, philosophie ou métaphysique, mais je m'insurge contre les sénettes de la vie minuscule que votre mépris lui prête, comme si la somme de ses QI et de ses émotions s'exprimait en cris d'extase devant un dentifrice ou un plat industriel. La pub, c'est le rat des pâquerettes, cogito ergo sum en miettes, plancher des vaches scénarisées pour nous rat des pâquerettiser. Sortis de chez eux, ces braves gens vont-ils enfin, entre collègues ou amis, décoller de leur routine et échanger, je ne sais pas moi, rêve, espoir, passion et tout ce qui fait le sel de la vie? Non, à la pause déjeuner, le sexe féminin débat de couches pour bébé, de crème pour grosse, pour tif, pour tronche, à croire qu'elles ne le valent pas mieux. C'est qui le? Le Dasein publicitaire qui régit leur existence de gourdes, de patates en promo. Ouais, on y va. Base du plafond. Quoi, tu ne connais pas la peinture sèche-vite? Du côté viril, ça discute ferme. Un brin critique de la raison pure, un brin monte comme volonté et représentation. Quand t'es Schopenhauer, attention les yeux. Mon œil, raison pure, volonté, représentation, ça applique à des bagnoles, des crédits, des après-rasages et des déodorants. Ne pue pas, tu seras un homme, mon fils. Et leurs enfants, ces pauvres enfants, tarde ta gueule à la récré si tu ne partages pas ton goûter machin ou ton spray anti-poux. Même les bébés jalousent leurs couches à fronce et leurs petits pots, dont dissertent les mères à l'heure qu'il est. Voilà comme nous devrions vivre, pauvres mortels, de janvier à décembre, de notre premier à notre dernier jour. T'as vu, mamie, la super convention obsèque? Oh. Oh oui, papy, j'en meurs d'envie. Beati pa opere spiritu, car le royaume des publicieux leur appartient. Le rat des pâquerettis me guette, du rase-motte l'exégète. Refusons d'être ces benets qui ne volent pas plus haut que leur nez. Pubar, c'est Nietzsche qui le répète, plus haut qu'elle-même faut que la vie pète. Uber, mensch, au petit pied pigé, fini de rat des pâquerettiser.
On est assez d'accord, hein? Mais je crois qu'il y a un homme ici, à côté de moi, c'est Lucas Fournier, qui est contre ce que vient de dire Dominique Müller. Je me trompe?
Non, je ne suis pas contre. Moi, j'ai une approche purement professionnelle.
Oui.
Je sais que je ne suis pas le seul médecin dans la salle ce soir. Je me présente, docteur Kerglas remplace, Kerglas répare. Je suis psychopublicologue et je suis le médecin traitant de Madame Müller. Chère madame, nous sommes en présence d'une pathologie typique de pubicatalgie nerveuse, compliquée d'un hypersyndrome mélancolique spotique sous-jacent avec diffusion purée mousseline et érythème psychopurulent tendance café grand-mère. Mais rassurez-vous, petite madame, on va d'abord s'occuper de soigner vos micro-coupures de publicité et puis ensuite on passera à un traitement un peu plus rude, la Victor Hugo thérapie.
Victor Hugo ?
Oui, Victor Hugo. Je crois qu'il est inutile de rappeler que c'est le maître absolu de la publicité. Jacques Séguéla n'a-t-il pas dit « Je veux être Victor Hugo ou rien ». Hugo, beaucoup l'ont oublié, a arraché les plus gros contrats. Depuis 1931, il a le budget de Notre-Dame de Paris. Budget colossal. La campagne sur la Madeleine, c'est lui. Oui. Vous pensiez Proust ? Eh ben non. Non, Marcel Proust, le misérable, a plagié le personnage de Jean Valjean, alias Monsieur Madeleine. Et puis Hugo, depuis qu'il a fait tourner les tables à Guernesey, a tout le budget Conforama. J'ajoute qu'on doit à Victor Hugo les plus beaux slogans publicitaires de la littérature. Madame Bovary, c'est moi. Oui, Flaubert a fait le livre, mais la promo, le procès, les pubs, c'est Victor. Ou encore, Paris, Paris outragé, Paris brisé. Paris martyrisé, mais Paris libéré, c'est encore lui. Notre-Dame de Paris, page 675. Peu de gens vont jusqu'à la page 675, et pourtant, ou encore, E égale MC2, c'est Victor Hugo, dans 93. Puisque E égale MC2, c'est la racine cubique de 93.
Bon, c'est bien joli tout ça, mais la Victor Hugo thérapie, ça consiste en quoi ?
Alors c'est simple, tous les soirs au coucher, vous allez prendre une dose de publicité de Victor Hugo et ça va complètement changer votre regard sur les réclames. Alors je l'ai en suppositoire ou en alexandrin ?
Oh bah, je préfère l'alexandrin.
Parfait, donc le premier soir, vous allez lire 100 vers de la légende des pubs. Le deuxième soir, vous passez à 200 et ainsi de suite, jusqu'à 1000. Et vous comprendrez la pub non plus comme une activité mineure, mais comme un art sublime, géant. Écoutez ça. Oh, combien de slogans, de réclames hautaines qui sont partis légers sur les ondes lointaines dans vos mornes cerveaux se sont évanouis. Combien ont disparu dans vos mémoires enfouies. Combien de chocs des mots et de poids des photos sont réduits aujourd'hui en simples ex-voto. Te souvient-il d'André Chasseur, sachant chausser du sempiternel, du bon, du beau
du bonnet.
Lorsqu'avec ses slogans trouvés par ses grosses têtes, échevelés, livides, fumant des cigarettes, Havas, à Publicis, descendant de l'Olympe.
Oh, oh, Victor Hugo, un verre, ça va. Deux verres, bonjour, les dégâts. C'est un traitement lourd. Vous n'auriez pas quelque chose de plus homéopathique?
Alors, c'est la cyranothérapie. La tirade du nez. Mmh. Eh bien, vous la prenez. Vous pouvez convoquer les muses de Sicile. C'est léger, c'est joyeux et pas bien difficile. Les arts et le génie français en un seul slogan. Les voici élégants et séants comme un gant. Car la pub, en trois mots, c'est nous dire son homme, on peut faire, madame, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, Proustien, mini Proust, mini prix, il écrit le
maximum. Maximum.
À l'allemande, Goethe, das Autor. Shakespearien, Hamlet, la perfection au masculin. Oui, oui. Marxiste, Le Capital, parce que je le vaux bien. Artiste, Picasso, what else? Aérien, heureusement il y a Saint-Ex, Saint-Ex. Balzacien, Flaubert sait faire à mon café, Flaubert sait faire à mon café. Napoléonien, vous ne viendrez plus chez nous par hussard. En voulez-vous encore?
Oui. Ah.
Catholique, Peggy, le contrat de conscience. Olympique, Monterland, à fond la forme, romantique. Les plus exagérés sont les spots les plus beaux et j'en sais d'immortels qui sont de purs joyeux. Académicien, on a toujours besoin de Genevois chez soi. Pictural, l'ami du petit chevalet, l'ami Tintoret. Américain, au père, il n'y en a pas.
Deux.
Ah. Hugolien, Victor, ça va fort. Bibette, tout le monde se lève pour Colette, Colette. Épiscopale, enfin, et priante à genoux. Des pages, oui, mais de Charles Péguy. Et c'est là que la nôtre se fermera ce soir. J'espère, cher ami, sans jouer les guiteries, avoir soigné votre âme et vous avoir guéri. Madame, maintenant, just do it.
Bon, autre chose, la récré dans la récréation avec le jeu des suppositions. Suppose que tu t'appelles, suis un court récit qui s'achève sur une chute calembourgeoise sur le nom en question. Et Patrice Minet a une petite histoire à nous raconter. Vous adressez à qui, Patrice?
Et pourquoi pas à vous, Françoise?
Oh, je serais contente. Je viens.
Oui.
Enfin, ça dépend comment je m'appelle.
Suppose que tu t'appelles Tôt.
Tôt.
Tôt, Françoise.
Tôt.
Tôt.
Tôt, c'est mignon.
Oui.
J'accepte, oui.
Tu fais un joli métier, puisque
oui.
Tu as un élevage de cochons.
Ah bon?
Oui, ah le cochon, oh cochon quel animal. C'est déjà une bonne chose d'avoir des cochons. Mais toi, tu t'es réservé une spécialité, Tôt. Tu n'élèves que les cochons qui savent parler.
Ah ouais?
Oui, car, le saviez-vous, tous les cochons parlent. La plupart ont un vocabulaire assez limité, ils disent uniquement... Et
ouais.
Ils se font souvent très bien comprendre. D'autres sont plus bavards... Et quelques-uns pérorent comme de vraies pipelettes. Ils sont intarissables, peut-être parfois un peu trop sérieux, et leur discours très édifiant. Mais, Tôt.
Oui, c'est moi.
Il y a une chose que tu ne supportes pas, c'est qu'on te raconte des bobards.
C'est vrai.
La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et comme tu as remarqué que les porcs, quand ils ne disent pas la vérité, ont la queue qui se détire-bouchonne, tu es toujours placé derrière eux quand ils bavardent. Tu les écoutes, et patati et patata, mais si l'un d'entre eux a la queue qui se détire-bouchonne, immédiatement, dans ton fort intérieur, tu te dis, ce porte-manteau.
Elle est magnifique, je suis très touchée qu'elle se soit adressée à moi. Je vous remercie, Minet. Eh bien, Almacy, c'est à vous. Et pour qui l'histoire ?
Hervé.
Oh, il va être gâté oui. aussi. Il est content, Hervé ?
Très.
Hervé, suppose que tu t'appelles Mars.
Mars ?
Mars.
Comme Mars, oui. Voilà.
Permets-moi de remémorer les grandes étapes de ta vie, cité de mémoire. Comme tout bon martien, tu étais un peu vert à ta naissance, mais ça s'est arrangé dès le premier cri, après une petite tape sur tes fesses que, ma foi, tu avais très jolies et plutôt roses. L'un dans l'autre, dès la maternelle, toutes les petites filles tombaient amoureuses de toi, mais toi, à l'époque, tu ne t'attachais pas encore très facilement. Ta devise était bien « un marche et ça repart ». Mais en CE2, ah non, en CE1 même. Enfin, la voilà, la grande affaire de ta jeune existence. Vénus, avec ses nattes, ses lunettes, ses dents de lait manquantes, qui rendent son sourire si irrésistible. Mars et Vénus, à partir de ce moment, vous grandissez ensemble, collège, lycée, fac, unis tous les deux, et c'est rare, quasi comme des jumeaux siamois, par votre bosse commune des maths.
C'est vrai pour Hervé, oui.
Jusque-là, tout est juste.
Il a failli avoir la grègue. Non, c'est vrai, il m'a dit ça cet après-midi.
Oui, je mens.
Ah, comme le porc de Minet.
Moi, je mens tard. C'est beaucoup moins drôle, je se porte mens tard, ça n'a aucun sens.
Bon.
Bref, dès qu'il y a une équation impossible à résoudre, Mars attaque et Vénus assure. Mais assez parlé d'amour. Tous les deux, vous regardez dans la même direction, le silence éternel de ces espaces infinis ne vous effraie point. Vous devenez astrophysicien et je pourrais compter tranquillement tes chroniques martiennes à la Ray Bradbury jusqu'à l'indispensable. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Si Vénus, sur un coup de tête et sur l'invitation de la NASA, ne t'avait pas quitté pour partir loin de toi, Mars. Ce jour-là, tu étais aussi rouge de colère et d'indignation que la planète dont tu portes le nom, et aussi vert de jalousie. Bref, tu broyais du noir en permanence et cela dure toujours. Vénus te manque, tu aimerais la recontacter, je dirais même plus, tu as décidé de la reconquérir. Aux dernières nouvelles, Vénus se trouverait au Chili, dans le désert d'Atacama, à manipuler les fameuses oreilles de la Terre à l'écoute d'une éventuelle vie extraterrestre. Hélas, elle a changé de numéro de portable. Ça semble mal parti. Mars, tu l'as perdu. Tu crois que tu ne peux plus jamais l'atteindre. Si, Mars, si. Et comme je suis gentille, je vais te dire comment. Tu as sûrement lu le best-seller « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Hein ?
Oui.
Tu l'as lu.
Il est très réactif.
Ça a l'air bien, le titre est...
Même si le bouquin ne parle pas d'astrophysique, une chose est vraie. Les hommes ne savent pas écouter. Alors... pour ta reconquête, dresse haut tes antennes sur ta tête. La belle Vénus ne fait pas que capter les signaux venus du fin fond de l'espace intersidéral. Si tu écoutes bien, Mars, elle, aimée.
Oh!
Il y avait au moins 3-4 titres des romans de Hervé.
Et oui, et oui, j'ai apprécié. Marcel Achard, ça marchait moins bien.
Et c'est l'heure de retrouver Patrick Beignet et Patrice Caumont qui ont planché tous les deux sur des sujets de dissertation. Voilà, prenez place. Donc, on va les réentendre, ces sujets, et puis on va écouter les dissertations qui ont donc été faites sous vos yeux en 58 minutes. Ils ont eu du temps quand même. Hein. C'est moins qu'à la grecque. À la grecque, on a 7 heures, je crois. Mais enfin, on va écouter ce qu'ils ont fait. Evalma, si vous voulez bien relire votre sujet, s'il vous plaît.
Platon, dans son célèbre dialogue « Les parapluies d'Athènes », dit « La 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 la, escargot, la 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 la, dialectique, la 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 ». À la lumière de cette citation devenue proverbiale de l'histoire de l'éthique météorologique, des présocratiques jusqu'à Nietzsche et Heidegger, et des exemples de votre expérience personnelle, répondez à la question « Peut-on parler de mensonge lorsqu'on a promis un beau soleil et qu'il pleut toute la journée ?»
C'est un sujet de fond, c'est un sujet intéressant qui donc vous a inspiré, Patrice Caumont, puisque vous l'avez choisi. Alors, d'abord, on va s'intéresser à la fameuse citation dont on avait surtout des « la 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 » et deux mots.
Oui.
Vous avez reconstitué la vraie fausse citation que vous allez traiter.
Ah ben, je ne vais pas reconstituer, c'est du Platon pur et dur. Oui.
Ah bon ? Du Platon comment ?
Non, du Platon...
pur sucre ?
Platon de fruits de mer, comme tu dis. Donc, alors allons-y. Vois-tu, Simias, du crapaud ou de l'escargot, on peut viser le beau. La limace, Simias, même si ça t'épate, et péripate. Et la limace fait la grimace quand la pluie fait sortir l'escargot qui bave en argot. Mais si l'on dit que la dialectique, c'est l'art de monter degré par degré vers le vrai, et si tu conviens que le vrai, le juste, le bien et le beau ne font qu'un au royaume des idées, tu ne n'iras point Simias, surtout si tu t'y mets avec Platon, que la grenouille...
Oui.
Qui, barreau après barreau, grimpe sur l'échelle vers le beau, est elle-même dialectique.
Ah, c'est bien, hein, c'est pas mal. Hein. Ah oui, quand même, oui. C'est déjà un beau travail. Il y a combien de pages après ? Oh là là, c'est énorme.
Non, j'écris gros, car je ne vois plus rien.
Alors, on traite le sujet, maintenant.
Oui, à peu près. Mais les nuages, les merveilleux nuages, nous empêchent de travailler.
On est chez Sagan.
La météo, Sagan de toilette, là. Donc, gouverner, c'est prévoir, et réciproquement. Ce sont les prévisions qui nous gouvernent, et les prévisions météorologiques influent sur le moral de l'homme, encore plus que les météores des signes astraux. Dans la Grèce antique déjà, les hommes, pour savoir s'ils pouvaient s'embarquer vers Mykonos, où les femmes vers Lesbos, devaient intéresser la Miss Pity de la météo, qui présente en pantalon à pattes d'elfe les cartes du lendemain, juste avant 20h chaque jour, et même si elle est enchaînée sur toutes les chaînes, comme Prométhée. D'ailleurs, peut-on dire que le mythe de la Prométhéo se perd dans la nuit des temps ? Peut-on faire foi au propos de Prométhée ? Qui n'a pas interrogé la coccinelle, à la fois bestiale et divine, en lui posant la question ontologique « Bête à bon Dieu, fera-t-il beau dimanche ?» Du barreau de l'échelle au baromètre, il y a un saut de grenouille épistémologique. Des thermopiles au thermomètre, qui n'a pas envie de relever les minima sur tous les sociaux, de se dissiper la vie monotone avec les brumes matinales et de prendre des dégelés nocturnes. À la question « Quel temps fait-il ? » on doit ajouter ce corollaire « Qui fait le temps ? » Chronos ou Éole ? Si c'est Chronos, du temps du week-end, il ne faut pas faire une pendule. Et si c'est Éole, le temps, c'est du vent. Dans l'être et le temps, Heidegger dit que le sein s'inscrit dans le zeit comme le zeste dans le citron et que le désir de l'UV, c'est rechercher des unités de valeur. Soyons plus philosophes comme le neveu de Rameau. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, sur son banc d'argenson, ses idées restent ses grenouilles. La sagesse de Montaigne nous pousse à ne consommer que des fruits de saison. Montesquieu nous apprend que l'homme et son caractère dépendent du climat. La saison, voilà le vrai problème ontologique du temps qu'il fait. La saison pure, c'est l'été cancien, des aoutiens, les prolégomènes à tout effort physique futur. La critique de la saison dialectique dépend du crapaud sartrien, plus que de la grenouille du phénomène météorologique du Serl. Pour Nietzsche, l'échelle de la grenouille est axiologique.
C'est une échelle de valeurs où chacun peut déterminer son propre barreau, s'y tenir et composer sa morale. Dans la pièce d'Aristophane, où Dionysos va chercher le poète aux enfers, le cœur des grenouilles annonce un sale temps, avis de tempête et dépression sur le littoral moral. Est-ce mentir que prétendre qu'il pleut, même s'il fait beau ? Pour les Égyptiens, Horus et Ra étaient solaires, mais la pluie de grenouilles est une des plaies d'Égypte. Or, comment une grenouille, laïque et obligatoire, peut-elle prévoir et annoncer une pluie de grenouilles, sauf avec une action de classe, voire syndicale ? La grenouille, très tôt, est têtard. Le pain perdu a plus de goût que le pain frais et le temps perdu a plus de goût que notre présent. Dans le discours de la Météode, Descartes, avec le sens commun, nous explique son principe. Le parasol devient vite un parapluie si la volonté divine change d'humeur. C'est mécanique. En conclusion, on peut dire que Leibniz, dans sa Météodicée, la météo, la branche.
La branche.
La météo, la branche. Météo, la branche.
Ah, météo, la branche, oui, oui, oui.
Et Malbranche tirer l'échelle.
Ah, oui, oui, oui.
Et Malbranche tirer l'échelle, d'où retombe la grenouille.
Oui, oui, oui.
Je retombe sur mes cuisses de Jupiter. Et justement, la grenouille, c'est Rana. Et comme Rihanna, la grenouille veut faire un bœuf.
C'est pas mal, non ? Ah, je sais pas, moi, j'ai pas tout à fait le niveau en philo, donc je ne sais pas, je me tourne vers l'examinatrice, Eva Almassi. Le candidat est assez brillant.
Le candidat est totalement et absolument brillant.
Voilà.
Cela dit, je l'interroge sur l'escargot, il me répond sur la grenouille.
Une petite confusion, oui, c'est vrai.
Donc, c'est un petit peu hors sujet, et en même temps avec la météo, bien sûr, la
oui,
grenouille.
Oui, bah, oui. Voilà. Donc c'est quand même un candidat...
Ça reste toujours d'actualité.
Sympathique, hein.
Oui. Oui, et puis l'escargot, c'est l'escargot de Heidegger, pauvre en monde, n'est-ce pas ? Et comment est tellement riche en monde ? Et son être-là est si fort qu'il ne pouvait que traiter la grenouille. Alors, quand même, quelques critiques avant d'émettre la note, parce que j'ai dit « célèbre dialogue » et puis j'ai dit « une phrase devenue proverbiale. Et votre phrase fait deux pages. Alors, vous avez vu déjà un proverbe de deux pages.
Oui. Les proverbes tchétchènes font 20 volumes.
Donc, la vraie citation, c'était « Quand Zeus décoche sa foudre sur la maison d'un escargot, le sage Socrate suspend sa dialectique et court se mettre à l'abri. »
Ah, c'est joli aussi, hein.
C'était ça.
Ah oui, mais enfin, on note quand même.
Alors,
hein. Il faut donner
note.
Une bonne.
Écoutez,
ou mauvaise,
c'est un sujet de météo. Demain, il fera 18 degrés. Je donne 18.
Bravo! Deuxième candidat au baccalauréat de philosophie, Patrick Beignet, sur un sujet de Patrice Minet. Vous nous rappelez le sujet, Patrice?
Dans une lettre, Jean-Paul Sartre pose cette question. Quelle est ma place dans blablabla? Et surtout, est-ce une place blablabla? Sans négliger d'évoquer rapidement Blaise Pascal, essayez de répondre avec sincérité, en vous aidant de votre histoire personnelle et éventuellement de votre expérience des trajets si vous empruntez régulièrement les transports en commun. Vous imaginerez aussi les réponses éventuelles de membres de votre entourage en choisissant les plus pertinentes, car, pour paraphraser le grand auteur africain Amadou Ampateba, quand le cœur des ânes donne de la voix, il est inutile de braire pour le couvrir.
Bon, c'était un très joli sujet et intéressant. D'ailleurs, vous avez tout de suite eu envie de le prendre, Patrick Beignet.
Je le trouvais moins pire que l'autre.
Pas nuance. Trop plus dramatique. Alors, vous avez commencé en reconstituant la citation et vous deviez faire preuve d'imagination.
Ah bon ?
Oui.
J'ai fait preuve de rigueur intellectuelle, j'ai tenté du moins.
C'est pas mal aussi. Hein.
Oui, mais ça a fait que le sujet s'est effondré assez vite. Ce qui n'est pas facile quand on fait une dissertation. Donc, ce que j'ai reconstitué, c'était « Je ne peux réfléchir à ma place dans l'univers » sans désirer passionnément trouver une place assise, ce qui détruit en même temps toute rigueur philosophique, car la philosophie ne se vit-elle pas debout ?
Oh, c'est bien. Oui, c'est très très beau. Et maintenant, il faut traiter.
Eh oui.
Vous traitez classique, introduction, blablabla.
J'essaie, mais...
Oui, d'accord, voilà. D'accord.
Blablabla, non.
Non, c'est ce que j'espérais.
Il est souvent difficile de garder son sérieux en lisant les sujets proposés à la réflexion des candidats au bac. Voici la troisième fois que je viens, plein de bonne volonté, passer le concours. Et pour la troisième fois, j'ai éclaté de rire en le lisant, sans aucun esprit de provocation. C'était plus fort que moi, et malheureusement, ça m'a fait d'emblée mal voir par le surveillant cette année encore. Comment en effet prendre au sérieux un sujet qui vous incite à répondre avec sincérité à une question de philosophie et même de métaphysique ? Ma première partie va tenter d'examiner le rapport pour moi problématique de la philosophie avec la sincérité. Ça m'évitera de céder à la tentation de l'anecdote, ce qui me conduit, se dit en passant, à éliminer beaucoup de choses dans le sujet qui étaient verbeux et pas très sérieux.
Et un peu personnel au fond, oui.
Un philosophe sincère, c'est une contradiction dans les termes, un oxymore. La philosophie aspire à l'absolu, en tout cas je n'en veux pas d'autre. Et comment se marierait-elle avec la sincérité qui est le comble du subjectif, surtout dans le cas de Jean-Paul Sartre ? Avant de pouvoir poser la question, sa possibilité est ainsi mise à mal. Poursuivre mon devoir, en traitant le sujet, ce serait entrer dans le monde du faux, de l'incertain. Ne pas poursuivre mon devoir, même pour une raison aussi juste que celle que je viens d'énoncer, ce serait me mettre hors sujet, hors jeu, pour la troisième fois. Et comme je le rappelais en commençant, ça commence à bien faire. Aurais-je la patience de venir une quatrième fois ? Ce n'est pas certain. Je vais donc tenter de poursuivre, mais sans renier mon exigence de philosophie critique, et pourtant sans m'aliéner la bienveillance du correcteur.
Pas facile, hein,
c'est
oui.
C'est très très dur. Et je bute, on commence la deuxième partie, je bute sur une nouvelle difficulté. La citation, non pas qui est à l'origine du sujet, mais celle qui le conclut, hein, celle du grand auteur africain Amadou Mbateba, « Quand le cœur des ânes donne de la voix, il est inutile de braire pour le couvrir. » C'est une citation dont l'usage risque d'être très pervers. En effet, parmi les membres de mon entourage, je considère évidemment mes professeurs, et en particulier le professeur de philosophie. Il serait trop facile de ne considérer comme mon entourage que mon père abruti par l'alcool, ma mère éternellement dépressive, et mes divers frères et sœurs dont je vous épargne la description. Non, mon entourage, c'est vous, monsieur le professeur, monsieur le correcteur. Et une nouvelle fois, je dois cesser de penser. Je ne puis tirer des conclusions. Dois-je cesser de braire ? Mais avant d'aborder la conclusion difficile d'un si complexe sujet, il me reste à trouver une troisième partie. Or, je m'aperçois in extremis que j'ai jusque-là négligé d'évoquer, même rapidement, Pascal, qui était demandé. Mais voilà encore un piège. Évoquer rapidement la figure puissante, troublante, fascinante de Blaise Pascal, c'est un contresens de toute évidence. Ce ne peut être l'occasion d'une troisième partie digne de ce nom. Ne vaut-il pas mieux tout de suite passer à la conclusion ? Tassé dans son confortable fauteuil, installé lui aussi comme Jean-Paul Sartre sur une place assise, le correcteur aura tôt fait de juger que, pareil à l'âne en certaines circonstances, je suis un animal rétif et buté, à estimer qu'on me demande de trancher, de me prononcer. Mais est-il plus belle démonstration d'une jeune maturité intellectuelle, s'essayant à la pensée, que quelqu'un qui hésite à trancher ? N'est-ce pas là ce qu'un correcteur digne de ce nom doit espérer d'un candidat qui montre pour la troisième fois, son désir de bien faire.
Patrice Minet, il est reçu, c'est sa troisième fois.
Mais c'est lui qui va être collé, je pense.
Écoutez, il est élu par lassitude.
Oh, vous êtes sévère, hein?
Non, pas du tout. Je trouve qu'il y a du mérite à se présenter trois fois.
Ah, c'est ça, voilà. Oui.
Il a lassé ses correcteurs, si vous voulez.
Oui, oui, oui. Oui. Et alors, quelques remarques?
je trouve que c'est bien traité, parce que c'est mal traité. Et je regrette une toute petite chose déjà, c'est qu'on n'ait pas remis la citation de Jean-Paul Sartre dans son contexte.
C'est-à-dire?
Je vais vous donner la citation de Jean-Paul Sartre. Mmh. Quelle est ma place dans l'univers et surtout, est-ce une place assise? Alors,
oui,
il avait trouvé...
pas très loin,
quasiment.
Oui.
Cette phrase, dans une lettre, a été lue par Jean-Paul Sartre qui a sorti la lettre de sa poche un samedi soir à la Coupole. Il était tellement content d'avoir trouvé une place pour dîner qu'il a immédiatement noté cette phrase sur une lettre qu'il a envoyée à un ami. Donc, la Coupole n'est pas évoquée dans ton texte, Patrick.
Oh, oui, mais attendez, là.
Et je le regrette.
Oui, oui. Oui. Et ensuite, une note.
Ensuite, j'ai beaucoup apprécié les flashbacks du texte. C'est-à-dire que nous allons d'un côté, nous revenons de l'autre, nous finissons par la conclusion, mais elle est arrêtée immédiatement par ce retour à Pascal. Vous voyez, c'est une manière d'écrire de la philosophie très moderne. Et je pense que Patrick Beignet vise un poste à l'INA. Voilà.
La note, Patrice Minet.
Attendez, j'ai encore une chose à dire.
Oui.
Donc, cette valse hésitation implique cette hésitation à choisir et même à penser.
Mm-hmm.
Et en creux, je lis un petit peu dans le texte de Patrick qu'il ne veut pas penser. Il le dit en creux. Et je trouve que dire qu'on ne veut pas penser, c'est déjà penser. Et rien que pour ça, je lui donne 20.
Oh, bravo! Un candidat brillant, note formidable. Les papous passent la grègue, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressart, avec Anne de Pelchin, Pierre Mine, Patrice Klein, Gilles Manet, chargé de production Roland Dandalex. Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr pendant un an. C'est le podcast. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et puis rejoignez notre page Facebook. Entre amis, on se retrouve dimanche prochain pour la suite de la rediffusion des Papous passe la grègue. Au menu, une publi papoucité, une histoire de CV modianesque et la partie des experts contre faussaires. Au revoir, belle soirée à l'écoute de France Culture. Ri di 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 di